Et les matins débutent avec Margot Delpierre et son journal. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le cessez-le-feu accepté par la Turquie dans le nord de la Syrie arrive à son terme. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial en direct à Istanbul.
Le Premier ministre Netanyahou n'a pas réussi à former un gouvernement en Israël. Son rival politique prend la suite. La tâche est compliquée.
Nous irons également au Chili où les violences ont fait 12 morts. Reportage de notre correspondante dans une manifestation hier à Santiago. En France, les agriculteurs se font entendre devant les préfectures ce matin. Une nouvelle journée d'action pour interpeller Emmanuel Macron. Et la question du bonjour Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, SNCF, la sécurité des usagers est-elle menacée? On en parle donc dans quelques instants avec Gilles Dansart, un journaliste spécialisé dans le transport ferroviaire.
La trêve dans le nord-est de la Syrie se termine ce soir. Les Turcs avaient accepté de mettre définitivement fin à leur offensive à condition que les Kurdes quittent le secteur dans un délai de 5 jours. Il arrive donc à échéance. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour Margot.
En direct à Istanbul pour France Culture, le cessez-le-feu a-t-il été respecté?
Oui, les termes du cessez-le-feu ont été à peu près respectés. Alors bien sûr, les Kurdes n'ont pas fait mine d'évacuer toute la zone frontalière avec la Turquie, qui s'étend sur près de 500 kilomètres. Ils ont simplement décroché d'une bande de terrain d'en gros 120 kilomètres de large d'est en ouest et d'une trentaine de kilomètres de profondeur, précisément là où la Turquie et ses supplétifs syriens, qui sont à la manœuvre sur le terrain, ont lancé leur offensive depuis le 9 octobre dernier. Sur cette bande de territoire, les dernières troupes kurdes semblent avoir évacué la quasi-totalité des points d'appui qu'ils tenaient encore. Ankara devrait donc désormais investir ce territoire, sans doute en y installant quelques bases militaires, une dizaine, dit-on. Mais le contrôle du terrain syrien, de ce terrain-là, ne suffira certainement pas pour remplir l'autre objectif affiché par Recep Tayyip Erdogan en Syrie, récupérer une zone suffisamment importante pour pouvoir y rapatrier au moins une partie des quelques 3,5 millions de réfugiés syriens qui campent toujours sur le territoire turc. Alors ça veut dire qu'Ankara doit absolument contrôler bien davantage de terrain en Syrie, et c'est sans doute dans ce type d'ambition territoriale que le président Erdogan, doit négocier aujourd'hui avec son homologue russe à Sotchi.
Oui, parce que pour la suite, les Turcs devront faire avec les Russes.
Oui, il faut bien voir que les Kurdes ont accepté de lâcher cette bande de territoire, mais dans le même temps, ils ont renforcé les autres positions importantes de leur territoire en invitant les troupes du régime ainsi que son allié russe à y prendre position sur les villes de Manbij, de Kamishli ou même de Kobané, qui est un peu la ville symbole de la lutte kurde contre l'État islamique. Les troupes du régime et les Russes se sont déployés ces derniers jours et continuaient de le faire d'ailleurs hier soir encore. Ça signifie maintenant pour Erdogan que s'il veut poursuivre son offensive dans le nord syrien, il devra dorénavant affronter non seulement les Kurdes mais aussi et surtout les troupes du régime et son allié russe. On a du mal à imaginer qu'il tentera pareille aventure. Pour lui, mieux vaut tenter d'arriver par la négociation à obtenir ce territoire agrandi, cette zone de sécurité plus importante. Le problème, c'est que les Russes ne proposent pas davantage qu'une zone tampon de 5 petits kilomètres qui pourrait être par exemple conjointement patrouillée, mais certainement pas contrôlée par Ankara. Bref, le président turc n'arrive pas forcément à Sotchi en position de force.
Eric Biegala avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques, envoyés spéciaux de France Culture en Turquie. Benjamin Netanyahou jette l'éponge. Le Premier ministre israélien n'a pas réussi à former un gouvernement. C'est donc maintenant à son rival Benny Gantz, arrivé juste derrière lui aux législatives de septembre dernier, de tenter de mettre fin à plus de 6 mois d'impasse politique. Pour y parvenir, Benny Gantz dispose à son tour de 28 jours. Alice Froussard, vous êtes à Jérusalem. Cet échec de Netanyahou, ce n'était pas une grande surprise.
Le scénario se répète pour Benjamin Netanyahou comme lors des dernières élections. Le blocage est total, impossible de former une majorité avec ses alliés habituels, les partis religieux et la droite nationaliste. Le gouvernement d'union nationale dont il rêvait n'a pas abouti non plus. Alors, le jour de ses 70 ans, l'actuel Premier ministre se fait un cadeau très spécial. Il renonce à la formation d'un gouvernement et rend son mandat au président israélien Reuven Rivlin. C'est la première fois qu'il se retrouve dans ce cas de figure. En mai dernier, il avait réussi à dissoudre l'Assemblée pour s'en sortir. Et c'est donc son rival, le centriste Benny Gantz, qui aura la lourde tâche de réunir les 61 sièges nécessaires à une majorité. Là aussi, la tâche s'annonce compliquée. Pour le moment, le leader du parti bleu-blanc n'a pas non plus le bon nombre de soutiens. Mais il devient ainsi le premier homme politique autre que Netanyahou à recevoir ce mandat. Ça n'a pas été le cas en Israël depuis 11 ans. « Il est temps de passer à l'action », a-t-il annoncé dans un communiqué, quelques minutes après cette annonce. Il faut toutefois le préciser, ce n'est pas encore vraiment la fin du règne de celui que l'on surnomme Bibi. Il reste Premier ministre pour le moment et espère secrètement que Benny Gantz échoue lui aussi. Dans ce cas de figure, il pourrait y avoir de nouvelles élections en Israël.
Alice Froussard, les libéraux de Justin Trudeau sont en passe de remporter les élections législatives au Canada. Il ne s'agit pour l'instant que de projections. Le Premier ministre sortant devrait diriger un gouvernement minoritaire. Les élections en Bolivie, cette fois, suscitent l'inquiétude des observateurs de l'Organisation des États américains. Dimanche, les résultats partiels, avec plus de 80% des bulletins dépouillés, laissaient entrevoir un second tour entre le président sortant, Evo Morales, et son principal adversaire, Carlos Mesa. Mais, revirement de situation, Evo Morales a été hier donné vainqueur dès le premier tour. Carlos Mesa a dénoncé une fraude. Nous irons en Bolivie dans le journal de 8h où à l'annonce de ces résultats, des incidents ont éclaté. Dans le pays voisin du Chili, où les manifestations et les émeutes ont fait 12 morts en 4 jours, le président a décidé de réunir les partis politiques aujourd'hui avec l'espoir de sortir de la crise. Sebastián Piñera a eu beau suspendre la hausse du prix du ticket de métro qui avait déclenché la colère des Chiliens, le calme n'est pas revenu. À Santiago, hier, les habitants réclamaient des mesures concrètes pour réduire les inégalités. Clara Dantec.
Des milliers de personnes étaient rassemblées sur la Plaza Italia dans le centre de Santiago lundi après-midi. Une manifestation pacifique durant laquelle les Chiliens ont exprimé leur colère vis-à-vis du gouvernement de Sebastián Piñera. Yolanda Badestrello est retraitée.
Le gouvernement n'a pas su répondre à la demande du peuple qui réclame moins d'inégalités sociales, une meilleure santé publique, une meilleure éducation. Ici, tout est privatisé. Les salaires sont très bas, 70% des Chiliens gagnent moins de 700 dollars.
Yolanda reproche au gouvernement son absence de réponse face à la crise sociale. Suite aux violents incidents de ces derniers jours, Sebastián Piñera a déclaré « Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant ». Il a même parlé d'organisation criminelle. Une rhétorique insupportable pour Camila Santin, lycéenne de 18 ans.
Nous ne sommes pas en guerre. Il n'est pas bête, Piñera. Je crois que sa stratégie, c'est de nous tourner les uns contre les autres. Le gouvernement n'utilise plus le mot « manifestant ». Il parle de délinquants, de vandales. C'est une stratégie pour diviser tout ce mouvement, mais il n'y arrivera pas.
De nombreux manifestants sont restés longtemps dans les rues de Santiago ce lundi, même après le début du couvre-feu qui a été décrété pour la troisième nuit consécutive dans la capitale chilienne.
Le reportage de Clara Dantec.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Les agriculteurs français crient leur détresse ce matin devant les préfectures.
Ils s'étaient déjà mobilisés le 8 octobre dernier. Ils recommencent aujourd'hui, ne supportant plus la déconsidération du monde agricole ou ce qu'on appelle aussi l'agribashing, les actions des militants antispécistes dans les élevages et les arrêtés antipesticides pris par les maires, par exemple. Comme l'élu breton de Langouette, il ne voulait plus de pesticides à moins de 150 mètres d'une habitation. Ce genre de décision est le symptôme de la mise en minorité des agriculteurs, estime le sociologue François Purseigle.
On voit que l'exigence environnementale participe d'une reconfiguration, d'une certaine manière, des formes de gouvernance au sein des espaces ruraux. On voit bien que pendant très longtemps, les agriculteurs ont été majoritaires dans ces espaces et c'est à eux qu'on a confié la gestion des communes. Or, aujourd'hui, ce sont plus forcément à eux que les communes sont confiées en termes de gestion. C'est pas forcément des agriculteurs qui sont choisis comme maires. Et on voit que les maires non agriculteurs ont bien compris que les agriculteurs étaient parfois, je dis bien parfois, en situation de minorité. Et donc, pour certains élus, il y a un changement. On assiste à un changement de pied. On a des élus, effectivement, qui ont pris conscience qu'il y avait d'autres clientèles à conquérir et que, malgré tous les efforts qu'ils avaient pu entreprendre en termes de lien avec cette population agricole, ils s'en départissent aisément.
François Purseigle au micro d'Anne Lorchois, un entretien à retrouver en longueur sur franceculture.fr. Nous reparlerons de la colère des agriculteurs à 7h24. C'est le reportage de la rédaction ce matin. Près d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, classée Céveso, les opérations de dépollution du site commencent aujourd'hui. 1400 fûts seront traités et neutralisés sur place. Parmi ceux-là, 160 endommagés contiennent des substances à risque. Les riverains ne sont pas rassurés, Rudy Pupin.
Thierry habite rue du président Kennedy, à peine 500 mètres du site. Et savoir que des produits chimiques vont y être traités ne le rassure pas vraiment.
Les odeurs, les produits qui peuvent s'en dégager, comme le H2S. Les premiers jours d'opération, on sera en dehors de la zone. On va partir en vacances, en fait, vu que c'est la Toussaint. Donc on va quitter les lieux pendant quelques jours, sachant que malheureusement, ça dure 2 mois. Donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué de partir 2 mois. Pour être rassuré et puis pour que les enfants, en fait, puissent... Respirer peut-être de l'air qui soit pas pollué.
Un peu plus loin, dans la même rue, Cindy, locataire d'une maison, dans laquelle elle ne se sent plus en sécurité.
Je ne sais pas si c'est bien cadré, j'espère, parce que vu les dangerosités des usines qui sont aux alentours, vaut mieux que ce soit bien cadré pour le bien-être de tous les habitants qui sont aux alentours, justement. On est au courant de rien, on ne sait pas quoi faire, et on se sent pas bien, on se sent étouffé chez nous.
Mais ces riverains ont conscience de la nécessité d'évacuer ce millier de fûts. Jean-François Domanger habite Impasse Lefèvre.
C'est aussi rassurant de se dire qu'ils vont enfin se débarrasser ces fûts qui sont pas dans un caisson hermétique, donc qui craignent quoi. C'est sans doute à l'origine des odeurs et puis ça fait partie des produits qui n'ont pas brûlé et qui sont potentiellement extrêmement dangereux.
Pour éviter les odeurs, des brumisateurs diffuseront des produits sur le site afin de les neutraliser.
Rudy Pupin de France Bleu Normandie. Et c'est aussi aujourd'hui que le PDG du groupe américain Lubrizol est entendu par la mission d'information de l'Assemblée nationale, puis cet après-midi par la commission d'enquête du Sénat. Les parlementaires disent vouloir faire la lumière sur la gestion des conséquences de cet accident par les services de l'État. Ils avaient le choix entre 2 options pour le plan social. Les salariés de General Electric à Belfort ont voté hier à une large majorité la proposition de la direction qui prévoit de supprimer environ 500 postes au lieu de 800 initialement. En contrepartie, cette option exige un plan d'économie annuel de 12 millions d'euros selon les syndicats CFE-CGC et Sud. Météo France place l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et Andorre en vigilance orange aux orages et pluies inondations ce matin. Des chutes de grêle et de violentes rafales de vent sont attendues par endroits, alors prudence. Le temps sera gris de Metz à Bayonne sur une large partie du pays. Quelques éclaircies attendu sur les côtes normandes et bretonnes. Il fait ce matin entre 4 et 11 degrés jusqu'à 20 autour de la Méditerranée. Cet après-midi, Météo France prévoit au maximum 14 à Lille, 13 à Paris et Bordeaux et 17 à Strasbourg, Guillaume.